Bonjour. Est-ce que le micro... Oui, ça y est. Donc le micro est allumé. Je vais essayer de parler correctement dans le micro. J'espère d'abord que le film High School de Wiseman vous a plu. Je suis ravie. Merci beaucoup de m'avoir invitée à parler de mon travail et du travail de Frédéric Wiseman lors de cette ciné-conférence. Donc en effet, moi je suis... une fervente admiratrice du travail de Frédéric Wiseman que j'ai découvert assez jeune, même très jeune, je devais avoir une vingtaine d'années. Et j'ai eu une lecture très compulsive de ses différents films, et notamment sur sa première période. C'est vrai que je connais moins bien ses derniers films, mais pour moi c'est un des plus grands auteurs contemporains du cinéma documentaire. Et ce qui m'a toujours marqué dans ses films documentaires, c'est comment est-ce qu'il arrive à mettre en lumière l'institution américaine, et avec toutes les ambiguïtés qu'elle comprenne, et puis aussi, en quelque sorte, si j'ai presque envie de dire, presque questionner un peu l'idée du rêve américain dans sa construction ou alors dans sa déconstruction. Comment est-ce qu'on pourrait aussi l'envisager comme il nous montre quelque chose qui peut être déconstruit tout autant qu'on peut le voir comme l'institution qui construit. Donc ça, c'était voilà, pour vous dire merci. Et oui, il y a quelque chose aussi qui m'a tout de suite plu et qui a influencé ensuite ma pratique de photographe, parce que ça doit vous paraître étrange que je parle donc d'un cinéaste, auteur, réalisateur de films documentaires, parce que moi, en tant que photographe, vous allez le voir après, je photographie plutôt des lieux vidés de toute leur présence humaine, mais malgré tout, c'est une influence, et vous allez comprendre après, qui a été très très importante dans ma pratique aujourd'hui. Donc, à plusieurs niveaux. Déjà, ce que j'appréciais dès que j'ai vu, c'est tous ces films, en fait, en partant du premier. Donc là, High School, c'est son second film. C'est sa qualité d'observateur à distance. En fait, il faut comprendre que sans vouloir me tromper, déjà, donc il s'intéresse à plusieurs institutions, et son idée est un peu, je pense, aussi de documenter en quelque sorte sur le long terme différentes institutions américaines, d'en faire une forme de panorama. Enfin, je crois que c'est ce qu'il dit aujourd'hui, enfin, qu'il revendique, qu'il n'aurait pas peur de le dire. Après, il a une forme de documenter tout ça avec une forme de recul. Donc, et même si parfois il utilise des... Donc lui, il est surtout preneur de son. Donc le son est très important dans chacun de ses films, et on le voit très bien dans High School. Et il travaille avec un chef opérateur, non ? Oui, ça se dit comme ça, un chef opérateur qui est chargé de faire les images. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette manière de procéder, c'est que lui, finalement, n'a pas l'œil dans la caméra, mais a toujours ce regard extérieur qui lui permet finalement de mieux comprendre le lieu dans lequel il se trouve et qu'il va être amené à filmer. Donc, en l'occurrence, dans High School, il va filmer pendant 5 semaines. Enfin, c'est pas lui qui filme, bien sûr, c'est son chef opérateur, mais lui, il va observer. Ils vont rester tous les deux 5 semaines dans ce lieu. Et évidemment, ils arrivent là-bas, enfin non, pas évidemment, justement, à la différence de beaucoup d'autres. Wiseman raconte qu'il n'a pas du tout une démarche de sociologue, c'est-à-dire qu'il étudie très peu en amont l'endroit dans lequel il va se rendre. Il découvre, il aime aussi la surprise... ou l'étonnement, se laisser surprendre par ce qu'il va trouver dans les lieux dans lesquels il décide de demander un accès. Donc ça, j'aime aussi beaucoup cette forme de retrait. Alors, quand on parle d'observateur à distance, c'est pas vraiment vrai, parce qu'après, chez lui, le montage est aussi très important. Et c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans tous ses films, c'est finalement, il passe presque plus de temps à monter ses films qu'à les filmer ou à les enregistrer, et le montage est crucial, en fait. Et en l'occurrence, dans High School, c'est un montage ce que j'aime aussi, mais comme dans tous ces films, c'est que ce ne sont pas des montages. Il n'y a pas de forme de narration. Ils sont presque, j'ai envie de dire, chorégraphiés, rythmés. Et puis, voilà, il y a une forme de beauté comme ça dans tous ces plans. Et oui, je parlais de la caméra. Ce que j'aime beaucoup, oui, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, parce que je parlais donc de son chef opérateur qui filme, lui, à côté de Wiseman. Il est sûrement, j'imagine, un peu dirigé par Frédéric Wiseman, mais de manière à être aussi enfin, peut-être pas discret, c'est peut-être pas le mot, mais de laisser les personnes aussi agir, de pouvoir les filmer dans le long terme, d'avoir le plus de rush possible et sur une durée illimitée, j'ai envie de dire jusqu'à ce que le discours se termine ou que l'action se termine. Ce qui est très beau aussi, c'est la manière dont il filme les corps, et ce qui lui permet de filmer les corps, c'est aussi d'utiliser des longues focales et donc de rester toujours à distance et d'avoir ce rapport au corps et à la personne. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'avais ? J'ai plein de choses à dire, mais... oui, donc évidemment, dans High School, il est vraiment question de la manière dont l'institution entend discipliner les consciences et les corps. Donc ça, c'est ce qu'on voit clairement et ce qu'on comprend dès le départ. Donc c'est cette verticalité de l'autorité. Et il y a des scènes qui sont quand même assez touchantes et assez même presque humiliantes, enfin, difficiles à regarder. Et voilà, donc où on essaye d'impliquer, d'inculquer à tous les étudiants une forme d'idéologie et de valeur qui est souvent obéir, répéter, réciter et toujours obéir, avec aussi cette forme toujours de be a man. Voilà, c'est ce côté du genre aussi encore très présent. Alors aussi, on est en 68, mais malgré tout, est-ce que ça a un peu changé ? J'espère qu'un peu, mais on n'est pas sûr. Donc voilà, il est vraiment question de discipliner les consciences et les corps à travers l'institution. Et d'ailleurs, moi, il y a une scène que je trouve assez remarquable au tout début. C'est la seule scène, donc c'est le début du film. C'est comment est-ce qu'on entre dans ce lieu qui est le lycée. C'est un travelling dans la ville, donc de Philadelphie. Donc c'est la seule vue en extérieur. Hein. Et il y a une musique d'Otis Redding qu'on entend en arrière-plan. Et quand on sait que ça s'appelle High School, mais tout d'un coup on voit le bâtiment et on n'est pas tout de suite dans une évidence qu'il s'agit d'un lycée. Ce pourrait être tout aussi bien une prison, une usine. Et c'est le seul plan extérieur. Et à mon avis, et je trouve ça très intéressant la manière dont il le monte ensuite, justement, avec ce cours d'espagnol sur l'existentialisme et Jean-Paul Sartre, avec juste avant la musique aussi d'Otis Redding, qui pour moi est un choix volontaire aussi de la part de Wiseman dans le montage, d'avoir relié cette forme d'existentialisme avec les paroles de la chanson. Et ça, j'ai trouvé que c'était une scène absolument somptueuse. Il y a aussi dans le montage, je parlais justement de cette manière d'observer, oui, et grâce à son montage, ce que j'apprécie beaucoup, ce qui m'a beaucoup aussi, moi, porté dans mon travail, c'est aussi cette manière de filmer et de monter sans jamais non plus diriger le spectateur vers un point de vue. C'est-à-dire que il nous laisse face à nous-mêmes, à notre propre opinion, il ne nous dirige à aucun moment à penser quoi que ce soit. C'est-à-dire que je pense que quelqu'un de plutôt conservateur se dirait plutôt « Ah oui, super, l'éducation dans ce lycée », quelqu'un de plus de moins conservateur se dirait « Waouh, c'est quand même violent d'éduquer les jeunes adultes de cette manière ». Voilà la question de la punition, de l'obéissance, de ce contrôle sur les corps. Voilà. Mais à aucun moment, Frédéric Wiseman nous dit ce que le spectateur doit penser. Et j'aime beaucoup cette part d'intelligence qu'il nous accorde, en fait. C'est-à-dire que c'est libre à nous de, de nous faire notre propre opinion. Et d'ailleurs, dans le montage, voilà, parce que ça, après, je vais vous parler ensuite un petit peu de mon travail et aussi d'une autre photographe. Il insiste aussi sur la dimension fonctionnelle de l'architecture. Sont beaucoup présents les classes, les couloirs, les salles de sport, et comment l'architecture aussi joue sur le corps. Mais ça, le corps, j'en ai déjà parlé, sur sa manière très photographique de filmer les corps. C'est presque magique, c'est somptueux. Il a une manière de filmer les corps qui, moi, m'a laissé... j'ai pas de mots, c'est complètement... J'ai été subjuguée par la qualité des images, par le mouvement, par le passage du gros plan au plan un peu plus large, par la contre-plongée, puis parfois de la plongée, enfin, voilà, par la présence des corps qui, malgré tout, sont victimes quand même d'une forme de verticalité due à l'institution, à ce que l'on veut faire de l'individu, et aussi par l'institution, l'architecture. Donc évidemment, voilà, moi, ma question est, évidemment, on ne peut que faire référence à Foucault et donc son rapport aussi à la domination de l'institution sur les corps. Mais j'ai aussi noté à un moment... Il y a une scène que j'ai trouvée absolument superbe où il y a cette prof de musique qui fait écouter un poème d'abord de Simon & Garfunkel, puis la chanson. Et il y a une des paroles qui dit... zut, est-ce que je l'ai noté? Existe-t-il encore un théâtre? Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est la phrase exacte. Et la chanson continue. Et là, on se trouve dans un couloir où on voit d'abord une jeune fille, puis une femme qui a l'air de nettoyer le couloir, ou en tout cas de dégager des cartons. Et ça m'a interpellée sur... Est-ce que c'est aussi un cinéaste de l'absurdité du quotidien? Et est-ce qu'il nous dépeint? Est-ce que son objectif n'est pas non plus de dépeindre, de représenter un théâtre social? Et est-ce qu'il y aurait une forme comme ça, j'ai pas envie de parler de plutôt d'ironie, en fait, une forme de d'humour noir peut-être à regarder aussi, voilà. Donc voilà, ça c'était pour vous évoquer le film et ce que j'en ai moi ressenti après l'avoir visionné de nombreuses fois depuis une bonne vingtaine d'années.
Marina, vous voulez... On laisse Marina...
Oui, très bien, très bien. Alors, en fait, je trouvais que c'était aussi le... Alors, quand on m'a proposé d'intervenir justement sur Frédéric Wiseman, comme je vous le disais, j'étais ravie parce que c'est un photographe, n'importe quoi, un auteur, réalisateur de films documentaires contemporains qui a vraiment porté ma pratique, c'est-à-dire qui m'a donné envie d'être photographe, aussi étrange que cela puisse paraître. Donc, j'étais ravie de discuter, de revoir High School, de revoir ses autres films et voilà, et il se trouve que l'année dernière, donc en 2023, nous avions été invités avec l'artiste Lynn Cohen, qui malheureusement est décédée à présent, mais qui aurait eu peut-être 14 ans de moins que Frédéric Wiseman, à exposer au Centre Pompidou. Donc j'ai trouvé que c'était le moyen aussi de reparler de cette exposition à travers les films le film de Frédéric Wiseman dont on parle aujourd'hui, donc l'exposition qui avait lieu l'année dernière, et puis de vous présenter par la même occasion mon travail, était une exposition à l'initiative de Florian Ebner, donc le directeur du cabinet de la photographie du Centre Pompidou. Et donc c'est une exposition qui s'appelait Laboratoire Observatoire. un duo avec un duo solo show entre le travail de Lynn Cohen et le mien. Donc je voulais vous parler aussi du travail de Lynn Cohen, donc il commence à faire des photographies à peu près en même temps que Frédéric Wiseman commence à faire ses premiers documentaires, peut-être un petit peu plus tard. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement, en fait, pour moi, il y a un effet miroir entre leurs deux pratiques, et je trouvais ça super intéressant en tant que photographe de présenter des photographies justement qui ne représentent pas des personnes, parce qu'on pourrait parler des films de Frédéric Wiseman, on pourrait faire des analogies avec certains photographes, je sais pas, comme Robert Frank ou des photographes comme ça, et moi je le sens beaucoup plus proche finalement d'une photographe comme Lynn Cohen qui elle travaille de manière complètement différente, c'est-à-dire que elle ne se revendique pas comme étant une documentariste, elle est photographe, elle vient de la sculpture. Mais elle s'intéresse justement à elle souhaite parler des lieux sans la présence humaine des personnes. Comment évoquer ce qu'il se passe dans des lieux sans représenter l'humain et observer toute l'inquiétante étrangeté qu'il y a dans ces lieux du quotidien. Donc elle a parcouru de nombreux lieux qu'elle ne classifie jamais comme le ferait Frédéric Wiseman, c'est-à-dire que même si elle a des thématiques qui reviennent comme ça sans cesse, comme les classrooms, donc c'est pour ça que j'ai sélectionné ici plusieurs salles de cours de son travail pour rebondir sur High School, elle travaille à la fois sur des salles de classe, elle travaille à la fois sur des salles d'entraînement militaire, tout autant que sur des salons de coiffure, mais elle aime mélanger tout ça un petit peu comme si... Voilà, comme si tous ces lieux se ressemblaient dans leur construction architecturale. Donc jamais elle va présenter toutes ces classrooms les unes à côté des autres, ces observation rooms toutes les à côté des autres, ni tous les terrains militaires les uns à côté des autres, mais elle va comme ça construire et mélanger les images de manière à ce que, voilà, par exemple ici on est, j'imagine, dans une salle d'apprentissage pour être ORL. Ou là, peut-être pour être gynécologue, comme on a pu voir cette fabuleuse scène assez inquiétante dans High School. Mais il y a ce même rapport aussi au pouvoir des lieux à faire présence et à faire autorité. Et c'est pour ça que j'ai voulu vous présenter ces images dépeuplées qui, bizarrement, résonnent davantage pour moi avec le travail de Wiseman que si je vous avais présenté un autre photographe où les photos auraient été plus habitées humainement. Enfin voilà, donc c'était important pour moi de vous montrer ce travail parce que, au même titre que Frédéric Wiseman, j'ai découvert ces deux travaux à peu près en même temps. Et ce sont ces deux travaux complètement différents qui m'ont donné envie de débuter ma pratique et ce pourquoi je suis aujourd'hui une photographe avec à peu près une trentaine d'années de carrière. Donc on retrouve, en fait, c'est aussi la même époque, hein, donc il y a aussi l'époque qui... Mais voilà, dans la diversité, il y a aussi voilà, c'est très inquiétant aussi, un peu comme qu'on peut, ça peut même faire très peur, tous ces lieux, comment est-ce qu'ils peuvent diriger, nous dire où nous asseoir. Mais il y a aussi beaucoup d'humour, là, peut-être c'est une auto-école avec toutes ces petites voitures garées sur la droite. Et comme moi, je peux voir parfois un peu d'ironie, ou j'oserais peut-être pas dire de l'humour, mais des scènes qui font un peu rire, chez Wiseman, notamment dans High School, à la fin, avec ce... Je ne sais pas si ce sont des majorettes ou... Enfin, il y a des moments quand même où on ne peut pas s'empêcher de rigoler de l'absurdité du monde qu'on construit. Et c'est ce qui pourrait relier ces deux travaux ensemble, selon moi. C'est regarder vraiment ce que construit l'humain pour l'humain. Et puis, les lieux que nous habitons sans forcément y prêter attention. Merde, non, pardon, excusez-moi, je reviens. Je vais dans ce sens-là. Donc là, on est. C'est drôle d'ailleurs parce que quand j'ai. Pourtant, je le connais par cœur, High School, mais j'avais oublié qu'il y avait cette scène d'aviation. Enfin. De cosmonautes. Et donc là, on est aussi dans des salles de classe d'aviation avec. Et puis. Donc voilà, la seule présence humaine dans les photographies de Lynn Cohen sont souvent des mannequins ou des représentations humaines, mais voilà. Ici aussi, on pourrait être presque... Ça doit être un showroom, mais on pourrait être presque dans une salle de bal d'un grand lycée américain. Et celle-ci aussi me faisait beaucoup penser à, justement, le cours de musique. Ça doit être une salle de cours de musique, d'ailleurs. Ici aussi, c'est une salle de cours de scène criminelle. Donc, je trouve qu'on retrouve quand même des liens, même si elle n'a pas de sujet et dépeint quand même, essaye de peindre plutôt une société américaine dans son apprentissage, enfin dans les lieux d'apprentissage, en l'occurrence, entre autres. Wiseman, de la même manière, regarde cette même absurdité du quotidien à travers chacun de ses films. Donc ici aussi, on est dans une scène d'entraînement policière, je pense. Parce qu'on voit bien que les mannequins ont été... on leur a tiré dessus. Voilà. Et là, j'en viens à mon travail. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc moi, j'ai été nourrie, justement, bien sûr, par plein d'autres choses. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je devais retenir deux personnes qui ont vraiment marqué l'envie de travailler dans les arts plastiques et dans la photographie, ce serait, oui, effectivement, Frédéric Wiseman et Lynn Cohen, pour leur intérêt, pour les institutions, chacun à leur manière, pour, voilà, comme je le disais, ces lieux qu'on construit, qui sont construits par les hommes pour les hommes, pour diriger d'autres hommes. Et ce que j'aime aussi beaucoup dans les deux, c'est qu'il n'y a pas non plus une narration. Voilà, dans le film High School, ce qui, moi, m'a beaucoup plu aussi, c'est justement la qualité du montage. On n'est pas dans une narration, on est dans une forme de mosaïque. Il y a plusieurs plans qui nous empêchent de suivre une histoire avec un début et une fin, mais de comprendre quand même dans quel cadre on est. Et chez Lynn Cohen, c'est pareil, il n'y a jamais de linéarité, de la même manière qu'il n'y a pas du tout de série. Et elle se revendique vraiment comme étant anti... D'ailleurs, elle ne dit pas que ces images ne peuvent pas être envisagées comme documentaires. Elle dit qu'elle n'aurait pas, qu'elle a trop de respect pour les documentaristes pour s'envisager elle-même comme étant documentariste. Mais elle reconnaît que ces images peuvent être vues comme des documents d'une époque. Et bref, donc en sortant de mes études, la question du décor, justement, de l'institution, de ce qui était fabriqué, de la question de la mise en scène m'intéressait beaucoup. Et mon premier projet a été... donc là, je rejoins un petit peu les deux. Parce que pour le coup, moi, je m'intéresse vraiment à des sujets. C'est-à-dire que j'ai une approche... qui pourrait ressembler à celle de Frédéric Wiseman. C'est-à-dire que j'ai au départ des formes d'intuition. C'est-à-dire que je trouve que ça, c'est intéressant aujourd'hui. C'est intéressant de parler de ça aujourd'hui. Et je tente de m'introduire en demandant beaucoup de demandes d'autorisation dans tel ou tel endroit que j'ai envie de documenter. Donc, mon désir principal, c'est toujours, au tout début, c'est de documenter le réel. Et dans l'époque dans laquelle je vis. Et ici, la série dont je vous parle, elle s'appelle Remote Control, et je me suis intéressée à la mise en scène médiatique. Donc j'ai eu envie de documenter justement la mise en scène médiatique, donc j'ai demandé beaucoup d'autorisation pour rentrer dans des studios, des studios, des missions de télévision, et de photographier les décors. Et donc au départ, je ne savais pas vraiment. Hein, donc j'ai fait beaucoup. Ouais, moi aussi, je pourrais dire que ça ne se dit pas pareil en photographie, mais j'ai toujours beaucoup de rush par rapport au nombre d'images que je garde à la fin. Donc là, j'en ai moins. J'en monte pas 10, mais il n'y en a que 10 dans cette série. Mais j'ai dû faire peut-être. Je travaillais à l'époque encore en négatif, mais j'ai dû faire peut-être 150 pellicules. Donc au début, je tourne beaucoup autour du sujet avant de trouver vraiment ce qui m'intéresse. Et c'est au fur et à mesure que je regarde, parce que je ne reste pas 5 semaines dans un endroit, mais je vais y aller tous les jours un petit peu et puis faire de plus en plus de photos, tourner autour du sujet qui m'intéresse pour trouver la forme qui va correspondre à mon idée et à ce que je souhaite représenter. Et donc, en l'occurrence ici, c'était un parfait hasard. Il était l'heure de déjeuner, donc tous les techniciens étaient partis déjeuner et je me suis retrouvée toute seule comme ça sur ce plateau éteint, dépourvue de lumière criarde, de présentateur à grosse voix... Ou de tests lumière, tout était éteint, sauf cette charte de couleurs qui est en fait une mire qui sert à calibrer les écrans. Donc j'ai trouvé ça super intéressant justement que ce plateau soit éteint, qu'il ne reste plus que l'architecture visible. Donc, et là a commencé justement le projet. Maintenant je savais à quelle heure il fallait que je vienne pour débuter ma série et avoir toujours à peu près la même... La même redondance donc, de ces écrans éteints mais allumés par leur mire de calibration de la bonne couleur de l'écran. Donc à la fois on est dans un écran parce qu'on est dans le studio de télévision, mais je représente dans l'écran d'autres écrans, comme avec ce leitmotiv de la charte colorée qui revient d'une image à une autre. Et ça m'intéressait beaucoup parce que déjà, ça m'a interloquée. Je me suis dit, je suis dans un écran, il y a encore d'autres écrans et ils sont de plus en plus nombreux. Et c'est la première fois que j'envisageais ces écrans comme un possible hors-champ. C'est-à-dire comme la possibilité d'un autre paysage, parce que ces mires vont être remplacées par d'autres images. Et d'ailleurs, ça c'est autre chose, j'ai oublié d'en parler, du hors-champ d'ailleurs chez Wiseman, que je trouve aussi très intéressant. C'est-à-dire que par exemple dans High School, ce que je pourrais appeler le hors-champ chez lui, parce que je parle du hors-champ parce que c'est une notion qui traverse tout mon travail. Et dans High School, il y a des notions vraiment très importantes qui vont sûrement... lui donner envie de tourner d'autres les films qu'il va réaliser après, mais on est justement pendant qui sont juste, c'est des petits détails qui sont dits très rapidement, mais Martin Luther King vient de se faire assassiner, la guerre du Vietnam est en cours mais ça va pas si fort, le film se termine sur une lettre qu'on interprète un peu comme on veut, donc elle est quand même assez rude la fin, c'est un cut assez brutal où une des enseignantes pense avoir bien fait son travail, mais nous, on connaît la suite de l'histoire. Donc pour moi, ça aussi, justement, je voulais en parler justement de cette question du hors-champ qui me fascine dans ce film High School, c'est justement qu'il se passe beaucoup de choses, même aussi les astronautes et la question de la simulation aussi, justement, qui vivent 193 jours dans un simulateur. Donc ça, c'est pour revenir sur cette question de hors-champ dont j'avais oublié de parler tout à l'heure, mais qui me paraissait être assez essentielle. Donc c'est la première fois que j'envisage justement ces écrans dans ces écrans comme des hors-champs et des potentielles autres images dont je laisse toute liberté aux spectateurs d'envisager comme des paysages. Donc les photos sont toujours représentées les unes à côté des autres et il y a ce leitmotiv justement d'écran dans les écrans qui revient de plus en plus nombreux. Je voulais aussi vous parler d'une autre série que j'ai réalisée qui s'appelle La maison qui brûle tous les jours. Donc là aussi, et justement à la différence de Lynn Cohen, moi je travaille vraiment sur des sujets. Je ne me considère pas pour autant... documentariste non plus parce que je documente des lieux à un moment donné, mais ensuite je pense qu'il y a une forme de hors-champ qui se dégage où j'aime justement laisser cette forme d'ambiguïté où c'est le texte souvent qui va venir nous dire où est-ce qu'on est, où on se trouve, mais j'ai pas une photographie dans la tradition du documentaire photographique. Donc l'autre série que j'avais envie de vous présenter, oui, alors elle est très sombre, j'espère que vous voyez bien, mais la qualité de l'écran m'a l'air d'être parfaite. S'appelle La maison qui brûle tous les jours. Donc à la suite de la question de la mise en scène médiatique, je me suis intéressée à la question de la mise en scène de la catastrophe. Et ça m'a conduite à m'interroger sur plusieurs simulations de catastrophes, de maisons à simuler des catastrophes. Et donc, j'ai travaillé aussi avec l'armée, j'ai travaillé avec beaucoup de choses, mais j'ai gardé avec beaucoup de lieux, beaucoup d'institutions qui rejouent la guerre. Mais j'ai gardé qu'une seule de ces séries, hein, de tous ces rushs dont je parlais tout à l'heure. C'est cette série qui s'appelle La maison qui brûle tous les jours, où j'ai photographié plusieurs maisons en fait, dédiées aux pompiers pour leur entraînement. Donc là, en l'occurrence, je l'ai appelée La maison qui brûle tous les jours parce que c'est plusieurs maisons, mais dans une seule maison, parfois, il n'y a qu'une cuisine, parfois, il n'y a qu'une chambre. Et donc, ce sont des maisons. Ce qui m'a fascinée, c'est que ce sont vraiment des vraies maisons, des vraies fausses maisons, qui brûlent toute la journée au gaz et qui sont complètement dans l'obscurité, de manière à apprendre aux pompiers à se déplacer dans le noir et à éteindre les feux. Donc là, en l'occurrence, et donc le mobilier est pensé et construit pour ne jamais se détruire et faire en sorte que justement, il puisse être, la pièce puisse être réutilisée plusieurs heures par jour. Donc ici, donc tout est schématisé, évidemment. Donc là, on est dans un salon. Donc on peut voir la télé à droite, schématiquement représentée par un cube et puis des chaises vaguement... Voilà, qui ressemble vaguement à des chaises, mais c'est très, très schématique. Voilà, un parking. Donc, on pourrait être aussi dans Tati. Oui, voilà, je parlais de Foucault tout à l'heure. Et puis, oui, c'était pour rebondir aussi sur, justement, Lynn Cohen, qui, elle aussi, bien sûr, avait beaucoup lu Foucault et volontiers comparait ses images aussi aux références de Foucault, notamment sur la question de la domination des lieux sur les corps et des autorités sur les corps. Mais elle aimait dire aussi qu'elle se reconnaissait plus dans les films de Jacques Tati que dans ceux de que dans les livres de Foucault. Et ça m'a fait rire après coup de parce que j'y ai pas pensé tout de suite parce que c'est en lisant sur l'exposition cette phrase de Lynn Cohen, l'exposition qu'on a faite du coup au Centre Pompidou en 2023, cette phrase où elle aime plus se comparer à Jacques Tati qu'à Foucault. Et voilà, cette voiture, cette schématisation de voiture qui brûle, noircie, parce que ce sont des photos en couleur, hein, c'est pas des photos en noir et blanc, mais tout est noirci. Et donc, parce que brûler toute la journée, mais donc voilà, on pourrait être presque chez Tati aussi ici. Et ici, c'est un sofa, pas très confortable. Et une porte, alors celle-ci est un peu glauque, parce qu'on voit toutes les traces de mains des pompiers qui essayent de trouver la porte de sortie et de trouver l'issue. Et là, on voit qu'on est en couleur, parce que... Il y a quelques petits éléments. Moi, je photographie toujours en couleur, mais c'est vrai que mes photos ont souvent l'air d'être du noir et blanc. Pourtant, mon regard est en couleur. Mais et puis là aussi, c'était une cuisine, pareil, très schématique, avec juste une casserole et des placards et quelques faux boutons. Voilà. Donc, on est dans le pur décor aussi, mais le décor qui fait sens, un décor qui induit aussi un mode de fonctionnement décor à l'intérieur sur une potentielle catastrophe à venir. Et il y a un très beau texte qui va avec cette série qui avait été écrit, parce que j'aime beaucoup travailler avec les éditions aussi. Chaque projet, j'appelle ça des projets ou des sujets ou des séries. J'aime aussi les terminer, évidemment par le biais de l'exposition, mais par un livre aussi d'artiste. Et chaque projet et chaque livre a sa propre forme, selon le projet. Celui-ci, en l'occurrence, on avait choisi avec les éditeurs RVB Books, c'est un papier très très fin, presque en suie, presque comme s'il pouvait voler au vent, comme des... Voilà. Et Christian Milovanov, un de mes anciens enseignants, avait écrit un texte et le titre de son texte s'appelle « Ce qu'il reste avant la catastrophe ». Donc j'aime beaucoup ce titre aussi parce que voilà, « Ce qu'il reste avant la catastrophe ». Donc aussi, il y a des anecdotes drôles avec cette idée de la mise en scène de la catastrophe, c'est-à-dire, enfin drôle, moyennement drôle, mais par exemple, je m'étais rendue dans un village militaire à Sisson, et il y avait la Légion étrangère qui s'entraînait et c'était il y a quelques années parce qu'il me semble que c'était juste après les attentats qui avaient eu lieu dans un centre commercial au Kenya, donc ça devait être en 2014-2013, et pour filmer le faux village qui avait été, pour photographier le faux village qui avait été reconstruit, mais finalement je n'ai pas gardé ces images, mais En fait, il y a toujours un après-coup, c'est ça qui est très étonnant, c'est que là, il venait de construire une mosquée, par exemple, parce que arrivait justement cette idée du risque, voilà, de la mosquée. Et un centre commercial était en train de se construire parce que ces attentats venaient d'arriver. Donc il y a toujours un après-coup et finalement on se demande si vraiment on devance, si vraiment l'entraînement. Enfin, c'est toujours assez inquiétant comme lieu et assez. Enfin, ça, voilà. Donc moi, j'ai pas gardé ces images parce qu'elles me paraissaient un peu trop obvious et j'ai préféré garder la maison qui brûle tous les jours, qui pour moi parle un peu des mêmes événements, d'une catastrophe à venir, d'une catastrophe qu'on anticipe, mais ce qu'il reste avant. Marche tout aussi bien, en fait. C'était par là. Voilà. Alors, ça, c'est un autre projet. Alors, voilà, moi, j'ai des idées qui m'amènent à d'autres, en fait. Alors, je ne sais pas si Frédéric Wiseman fonctionne de cette manière ou pas, mais est-ce que c'est la guerre au Vietnam qu'il pressent, enfin, qui arrive et puis qui, j'imagine, suit de très près parce qu'il est quand même très politisé, même si ce que j'aime d'ailleurs, c'est qu'il ne le dit jamais. Mais il me semble savoir que.
Alors, les projets de Wiseman, alors, disons que le début jusqu'à Welfare, c'est une sorte de cycle assez conscient et volontaire,
ouais.
Comme vous l'avez dit, de panorama.
Voilà, oui.
Et ensuite, c'est de façon un peu plus. Opportuniste, hasardeuse
intuitive,
aussi, intuitive, voilà. Avec une envie de varier aussi.
Oui.
Les échelles, voilà, il y a eu l'échelle municipale, il y a eu le parc. Mais c'est vrai que les 10 ou 11 premiers films, c'est vraiment l'idée d'une série. Voilà, série des institutions. Et après, ce qui est vraiment ce que vous avez dit, je trouve, sur l'arrivée dans le lycée,
ouais.
Sur l'incertitude de l'architecture. Et effectivement, il nomme ces films de façon la plus nette possible, High School, Basic Training, Law and Order. Et puis en même temps, il y a une sorte de réversibilité, c'est-à-dire que High School, c'est un peu déjà Basic Training,
exactement.
Les classes militaires. Enfin, y a déjà, donc il y a tout un tas de... Oui, une sorte de réversibilité des lieux, alors que les titres les nomment le plus... en tout cas, très précisément. Voilà.
Merci. dans mon cas, en quelque sorte, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que il y a une forme de logique quand même. C'est pas, je décide pas de faire un projet parce que ça change ou parce que y a cette idée tout d'un coup. J'ai lu un article dans le journal ou quoi. Enfin, non, c'est chaque projet qui m'amène à en penser à un autre. Mais il y a quand même l'idée de pas de créer un panorama, mais si quand même de regarder le monde dans lequel je vis. Comment est-ce qu'il est fabriqué ? Et plus récemment, la question de la fabrication des images et de l'imaginaire. Et donc, c'est déjà le cas même de l'imaginaire collectif avec la maison qui brûle tous les jours aussi. Enfin, comment est-ce qu'on fabrique un imaginaire à partir de cette mise en scène de la catastrophe ? Et donc, ce projet-là serait plutôt à relier avec la mise en scène télévisuelle et avec cette question des écrans qui font déjà hors champ pour moi. Et puis, il est aussi question de beaucoup de dispositifs de fabrication des choses et des images. Donc là, en l'occurrence, c'est surtout la mise en scène des plateaux de télévision avec l'apparition d'une autre image dans l'image qui m'a donné envie de travailler sur ce projet qui s'appelle « Après l'image », justement, et où j'ai eu envie de m'intéresser aux dispositifs d'installation des photographes dont le métier des photographes en question est de photographier des œuvres d'art en vue de leur reproduction. C'est-à-dire que leur métier est vraiment très techniquement photographier de la meilleure façon un Giacometti, voilà, toutes sortes d'œuvres d'art en vue de leur plus fidèle reproduction pour des catalogues ou des livres d'histoire de l'art. Et c'est l'image qui va rester dans l'histoire. Donc je me suis intéressée au moment vide, en fait, de l'installation. Donc l'œuvre d'art vient d'être enlevée ou n'est pas encore arrivée, mais tout est prêt. Et alors, je n'ai pas marqué les titres, je suis désolée, mais chaque photo porte le titre de l'œuvre d'art qui était là. Donc là encore, j'appelle le spectateur à se construire une image hors champ. C'est-à-dire qu'on est face à cette... Mais à la fois, j'aime qu'on puisse les regarder aussi sans les titres, mais que si on veut, on aille les chercher, parce que c'est aussi un travail qui joue à la limite du documentaire sur une forme plus abstraite aussi de la photographie, plus conceptuelle. Et en l'occurrence, celle-ci s'appelle « Sans titre ». Donc chaque photo de ce projet s'appelle « Sans titre », entre parenthèses, le nom de l'œuvre. Donc « Sans titre »,« Tête sur tige », Giacometti... Ici, pareil, c'était sans titre, Le baiser, Auguste Rodin. Sans titre, Armand Albert Ratteau, donc, qui est un designer, Table basse aux oiseaux. Mais j'aimais justement, en fait, ce qui me plaisait dans ce... En suivant justement cette installation, cette mise en scène faite par des photographes, c'était justement cette relation au tout et au rien, au complètement trivial et au bricolage d'un fond, d'un bout de scotch, d'une multiprise, de quatre néons, d'un socle peint en noir, et la confrontation à l'œuvre d'art majeur qu'on ne voit pas mais qu'on devine par la légende et qu'on est amené à se reconstruire. Donc c'est vraiment aussi, voilà, comment est-ce qu'on construit les images, et c'est des lieux aussi qu'on ne voit pas. Alors je ne m'intéresse pas aux lieux qui sont cachés, hein, mais en quelque sorte... en montrant leur présence, parce que ça ne m'intéresse pas un peu de dénicher les lieux qui sont secrets, qui sont cachés, c'est pas mathématique, mais c'est vraiment montrer comment est-ce qu'on construit et interroger la fabrication des images et des choses, et la question du bricolage, et derrière tout ça, l'humain, évidemment, qui est, je pense, toujours présent, même si il n'est pas physiquement là. Alors ici, j'étais contente parce que parfois, je trouvais aussi des... J'ai après aussi fait toute une sélection de choix qui rebondissaient sur l'histoire de la photographie. Ici, cette photo s'appelle « Sans titre, Eugène Adjaye au tambour ». Donc c'était aussi des citations, parce que je travaillais avec plusieurs photographes, et parfois, ils m'appelaient en me disant « Ah là, il y a telle œuvre ». Donc à la fin, j'ai essayé de tout réunir aussi avec... si on a envie de creuser ou de fouiller sur mon travail, des petites références comme ça à l'histoire de la photographie. Et, ou à l'appareil photographique, par exemple, ici, c'était sans titre, Lynn Vautrin, miroir. Donc c'était aussi référence au miroir de la photographie. Et dans la même idée, toujours voilà, cette idée de l'apparition des images, parce que je montre aussi des dispositifs qui sont amenés à disparaître pour faire apparaître une autre image, hors champ. Là, je me suis intéressée aux décors de cinéma, des fonds d'incrustation bleu et vert. Donc, en fait, j'ai trouvé ça complètement fascinant qu'il existe de gigantesques salles, mais vraiment gigantesques. Là, je parle d'une salle qui doit faire 1000 mètres carrés, qu'on ne voit jamais, qu'on n'est jamais amené à voir, en fait, parce que... Bon, on ne les cherche pas. Moi, la première que j'ai trouvée, c'était par hasard, quand je photographiais un plateau de télévision. Et je me suis dit, tiens, là, c'est intéressant. Moi qui m'intéresse au décor et à la question de la mise en scène, ici, il n'y en a plus. On est dans la disparition du décor. C'est une couleur monochrome qui va être amenée à représenter tout et rien, parce qu'elle va être effacée. Donc, sa seule façon d'exister, c'est d'être amenée à être effacée pour être remplacée par une multitude d'images. Et donc là, pareil, chaque photo porte le titre du paysage par lequel il va être remplacé au moment où je le demande, parce que la salle peut servir à des milliards d'images. C'est ça que j'aimais bien aussi. En l'occurrence, ici, c'était un champ de bataille. Oups. Ça, c'était fog, donc du brouillard. Mais j'aimais vraiment l'existence concrète et physique. En fait, moi, je m'intéresse vraiment à l'existence concrète et physique de ces lieux. Et leur faculté à nous raconter des histoires sur nous et à la fabrication dont on fabrique notre monde, et même ici la science-fiction, quoi. Et donc voilà. Et d'autant plus qu'il s'agit de deux monochromes, le vert et le bleu, pour représenter plein de couleurs, parce que j'ai appris que ce sont les couleurs qui sont les moins représentatives sur les peaux, enfin qui sont les moins présentes sur les peaux humaines. Voilà. Mais voilà, celle-ci s'appelle donc Lumière dans la nuit. Voilà. Et celle-ci, je l'aimais beaucoup parce que ici, on voit la limite du décor, en fait. C'est-à-dire que le bleu va s'effacer, et elle s'appelle Rock and Sound. Mais on voit vraiment la délimitation du décor, comme si le décor apparaissait ou pouvait apparaître hors champ dans le bleu, dans les nuances de bleu, mais plus là où c'était blanc. Donc voilà. Alors ce sont aussi des très grands formats parce que j'ai justement voulu que... voilà, on pourrait penser que ce sont de simples monochromes, qu'il n'y a pas grand-chose à regarder. Puis en fait, moi j'aime bien parce que quand on regarde les tirages en vrai, alors c'est des images qui ne marchent pas très bien en projection, mais quand on regarde les images en vrai, sur des vrais tirages, on peut s'arrêter sur d'infimes petits détails, des petites fissures sur un mur, des traces de pas au sol. Donc j'ai voulu volontairement de grands formats. Et j'ai travaillé avec une autrice qui s'appelle Marceline Delbecq, qui a écrit une fiction, une narration, à la fois descriptive aussi, sur... c'est quand même une fiction, mais qui décrit plusieurs paysages. Mais tout ça dans une linéarité aussi, on va dire, pareil, en mosaïque, un peu comme les montages de Wiseman. Et donc, on peut écouter. Donc, elle l'a écrit et elle l'a aussi enregistré de manière à ce qu'on puisse la lire dans le livre d'artiste, comme je vous en parlais tout précédemment, sur mon désir de créer à chaque fois des livres d'artiste. Donc on peut lire aussi son texte, mais on peut aussi l'écouter dans l'exposition à travers un casque. Comme ça, de manière, c'est plus intime en fait. Je voulais que chacun puisse s'immerger. On n'est pas obligé d'écouter l'histoire du début à la fin, mais on peut s'accrocher à quelques détails dans chacune des images et y voir ce qu'on a envie d'y voir. Voilà. Et enfin, peut-être la dernière institution, si je peux reprendre les mots de Wiseman, à laquelle je me suis intéressée, parce que moi, je parlerai moins d'institutions qu'en tout cas des laboratoires du réel, des laboratoires de fabrication des choses. Ça veut dire que j'ai l'impression que à chaque fois que je me suis intéressée à un lieu ou à une série de lieux, c'est une forme de laboratoire. Un laboratoire où on fabrique, où on photographie des œuvres des œuvres d'art. Un laboratoire où on va filmer pour remplacer les fonds verts par d'autres choses. Et un laboratoire d'entraînement pour pompiers. Et finalement, mon dernier projet, alors celui-ci aussi, il fait suite justement à mon intérêt pour la mise en scène de la catastrophe. Je vous ai... pas vous trop vous ennuyer, j'ai mis que quelques images. Et c'est un projet qui s'appelle Phénomène. Je mets quand même beaucoup de temps à réaliser mes projets, parce que déjà il y a les temps de repérage et puis après il y a aussi le temps, ce que je pourrais appeler du montage, mais on va dire le choix des images, et puis qui fait partie à la fois du temps du repérage et du temps de la prise de vue et ensuite la finalité. Donc Phénomène, en fait, j'en avais un petit peu marre de tourner autour de, comme je vous le disais, de la mise en scène de la catastrophe. Mais je cherchais quand même. Et un jour, je suis tombée sur une image d'un laboratoire qui était capable de reproduire, donc à Grenoble, au CNRS, une avalanche. Et je me suis dit, oh, c'est magnifique, une avalanche, waouh. Et j'ai eu envie de continuer toujours dans ce registre de la catastrophe. Je me suis rendue à Grenoble. J'ai photographié cette simulation d'avalanche qui n'est pas très grande, hein, qui est passée dans un bassin. C'est un très grand aquarium et c'était fabuleux. Et j'ai commencé à faire des recherches sur les laboratoires et j'ai trouvé une image d'archives datant de près de 1910 du premier physicien Christian Birkeland, qui est le premier à être capable de reproduire une aurore boréale en laboratoire. Et donc j'ai cherché, j'ai trouvé l'image fascinante, merveilleuse, et je me suis dit waouh, c'est incroyable en fait ce sujet. Je vais l'appeler phénomène, et je vais pas m'intéresser que à des phénomènes catastrophiques. Je vais pas travailler que sur la mise en scène de la catastrophe, mais aussi sur le merveilleux. J'ai retrouvé la machine de Christian Birkeland au musée. À l'Observatoire de Meudon, pardon. Et j'ai donc aussi une partie CNRS. Et ils me l'ont refait marcher et j'ai pu la photographier. Mais pour débuter le projet, j'ai établi d'abord une liste de vocabulaire qu'on peut lire ici. Alors, pardon, ici c'est en anglais, mais ça va de propagation de feux de forêt, la voie lactée, le deep space, le vide spatial, les impacts de météorites, des glissements de terrain, terrain martien, des tornades, des éruptions volcaniques, un éclair. Et ensuite, j'ai cherché... tous les laboratoires en France au départ. Puis ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis pendant 2 mois avec l'aide d'une bourse de l'Institut français. pour travailler avec des laboratoires américains. Donc j'ai eu la chance de collaborer avec des gros laboratoires comme la NASA ou DPL, qui m'amusait aussi parce que c'était le lieu de la science-fiction par excellence, mais aussi beaucoup de petites universités fantastiques dans divers états. Et voilà, donc j'ai ensuite photographié la reconstitution. Mais pour moi, juste pour revenir, cette constellation, parce que je l'appelle comme cette constellation de vocabulaire, comme un lexique en fait, est toujours présente dans les expositions sur ce projet, parce que pour moi, elle fait image. C'est-à-dire qu'on a tous une image différente d'une avalanche en tête. On a tous une image différente de la collision de deux trous noirs, même si elle est plus ou moins abstraite. On a tous une image différente d'un éclair en tête. Et donc pour moi, pour débuter cette exposition par cette liste de vocabulaire, c'était super important pour que chacun déjà puisse se faire une représentation mentale et rebondissait aussi sur mes autres travaux qui jouent justement sur cette question de hors-champ et de l'image dans l'espace plus que dans la représentation. Et donc voici, donc, j'en ai mis trois. Donc la simulation d'un éclair ici au CNRS à Lyon. J'ai mis beaucoup de temps à photographier cet éclair, presque une journée, parce qu'évidemment, je ne pouvais pas rester dans la pièce avec un champ électrique, ou sinon j'étais morte illico. Et puis, lui, il fallait le temps aussi aux chercheurs de lancer l'éclair, et moi, il fallait que je retarde mon appareil. Enfin, bref. Mais je suis très contente de mon éclair avec ce faux nuage. Donc on est aussi dans un espace de simulation, un peu comme les étudiants de high school qui sont dans un espace de simulation d'astronomie. Et voilà, ici un sol martien. Donc ici, ce n'est pas celui de JPL, c'est celui de l'ESA, à côté de Londres. Et là, c'est un lieu qui m'a fascinée parce que... Et c'est un lieu que j'ai découvert en cherchant, hein, en faisant des recherches sur Internet. Et donc, c'est un grand hangar qui est construit à une heure de Londres à peu près et qui a été rempli de 300 tonnes de sable. Je ne pouvais pas toucher un seul caillou parce que tout est mesuré et construit pour entraîner les robots qui vont partir sur différentes missions martiennes. Donc ça, c'est un projet que j'ai débuté en 2016 et que j'ai terminé en 2019. Même après j'ai un petit peu continué. La dernière image, je l'ai faite en 2023, mais c'était vraiment la fin. et ici, c'était en 2018, et c'était juste avant que les robots partent sur Mars pour une mission martienne en 2018. Et j'ai posé la question à un des chercheurs. Et le plafond, il sert à quoi? Et le chercheur me dit, ah ben non, rien, c'est juste que comme entre chaque mission, là ça part en 2018, mais la prochaine sera peut-être 2024, entre-temps, on va louer l'espace pour des films de science-fiction. Donc j'ai trouvé l'histoire assez fascinante, et d'ailleurs c'est un livre qui est très documenté, donc là je vous montre que des images, mais en fait toutes les anecdotes que je raconte sont aussi documentées dans le livre. Et enfin, un simulateur de vagues qui était capable de simuler toutes sortes de vagues, des vagues scélérates, des vagues comme ça, des vagues, des plus ou moins grosses vagues, ou même un temps très calme. Ici, c'est à Nantes, à l'école centrale. Voilà. Donc ici, j'ai vraiment travaillé plutôt en collaboration avec des laboratoires scientifiques. Donc voilà, il s'agit moins dans mon travail d'institution que de la question du laboratoire et de comment est-ce qu'on souhaite représenter notre société ou du moins l'étudier pour mieux la comprendre à travers un imaginaire collectif que les chercheurs se représentent pour nous le donner à nous le représenter. Voilà, je vous remercie. J'espère avoir été clair, hein, mais...
Oui, il y avait déjà une question là, mais une question que j'espère, enfin, n'a aucune malice dans ma question, mais je crois qu'elle est très compliquée. Mais c'est ce dont vous avez parlé, que Weisman... Donc n'est pas ne fait pas partie de la famille des cinéastes filmeurs, C'est-à-dire que mécaniquement, oui, on n'est pas dans son regard, mais on ne doute pas un instant qu'on est dans son regard. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, en tant que photographe, voilà, cette, d'une certaine manière, délégation du regard via l'appareil à quelqu'un. Enfin, je ne sais pas, est-ce que ça vous inspire quelque
chose ? Moi, je me reconnais complètement là-dedans, parce que c'est très compliqué de voir immédiatement dans la caméra ou dans l'appareil photo. Donc moi, c'est pour ça que j'ai tendance, quand je suis partie aux États-Unis, j'étais avec une assistante qui ne faisait pas les images, mais qui pouvait discuter avec la personne qui nous recevait, le chercheur. Et moi, je pouvais me concentrer sur les images. Mais dans ce cas-là, j'ai tendance à... Moi, je n'arrive pas à penser une image immédiatement. Mais je pense que Wiseman est peut-être aussi comme ça, dans le sens où il fait beaucoup des centaines d'heures de rush pendant ses tournages. Moi, je peux faire des centaines et des centaines d'images. Et heureusement que je ne travaille plus en argentique, sinon je serais ruinée. Mais voilà, je peux commencer comme ça, à faire des centaines et des centaines d'images jusqu'à épuiser complètement le lieu, pour ensuite savoir où je vais. Mais souvent, à la fin de la journée, je sais déjà un peu où je vais. Mais j'ai besoin d'être accompagnée aussi par quelqu'un, justement, plutôt pour discuter avec la personne qui nous accompagne et me laisser la possibilité de voir, dans toute son entièreté, l'endroit où je suis. Voilà, donc oui, ça, moi, je pense que j'aurais... Et puis, je trouve que c'est une attitude... on parlait d'observation, je sais que c'est un terme qu'il n'aime pas, parce que justement... Et c'est vrai que c'est assez réducteur juste d'être observateur à distance alors que tout le travail se fait au montage. Mais je pense que c'est un temps d'observation nécessaire en fait pour faire un bon montage, pour comprendre vraiment l'institution dans laquelle on se trouve. Voilà, se tenir en recul. Moi, je...
c'est vraiment une position qui d'ailleurs est quand même assez originale dans le cinéma.
Surtout dans le cinéma documentaire.
Voilà, dans le cinéma documentaire. Non pas, il y a plein de cinéastes qui ne sont pas leurs propres opérateurs, mais qui se sont choisis cette place de preneur de son. Et ce qui est peut-être aussi intéressant, c'est que au cinéma, moi qui n'en fais pas, j'espère ne pas dire de bêtises, mais surtout avec le 16 mm, l'opérateur est aveugle ou presque. Ou en tout cas, il n'y a pas. Et c'est vrai que Wiseman, d'une certaine façon, même si quand on prend le son, il ne fait pas que c'est une activité physique très, très prenante, mais il est quand même d'une certaine manière un premier spectateur de la scène.
Oui, je pense qu'on voit mieux quand on n'a pas l'œil dans la caméra.
Oui, je pense.
Je voulais dire quelque chose, j'ai oublié. Oui. Et puis ce que j'aime beaucoup aussi dans sa pratique, si je ne me trompe pas, c'est justement cette manière aussi, même si ce n'est pas lui qui filme, mais de demander à son chef opérateur justement de fonctionner par ce changement de focale plutôt que de s'approcher des protagonistes pour ne pas les perturber dans leur naturel en fait. Ça, j'ai trouvé ça très juste parce que ça permet de plans magnifiques, des plans sur les mains, cette mère qui touche sa chaise à un moment comme ça, ou cette enseignante qu'on voit se mettre la main sur la ceinture, enfin voilà, des plans sur des pieds, des regards, des bouches, enfin, et c'est vrai que sinon, à moins d'être très près et envahissant, voilà.
Il y a une grande, grande fragmentation des corps dans ce film, et peut-être c'est le film où la fragmentation est la plus importante.
Mais Arnaud, toi qui le connais, qui connais très bien son travail, il n'a pas le temps de dire à l'opérateur de filmer cette main ou cette ceinture. Donc c'est l'opérateur qui a l'initiative.
Est-ce qu'il n'est pas un peu comme chef d'orchestre ? Petite question.
En tenant la perche, il n'a peut-être pas le temps, hein. Il a des codes.
Oui, et puis il dit qu'il fait le cadre avec la perche.
C'est-à-dire que plus il la baisse, plus le cadre se rétrécit. D'accord.
Oui, c'est ce que j'avais.
Le signe tactile. Après, Wiseman, parce que je ne pense pas qu'on puisse faire la perche 10 heures par jour, je pense que, à moins d'être une espèce de musclore. Wiseman, un grand athlète. et il fait beaucoup le son par le bas. Il fait beaucoup le son, par le bas. Il y a quelques fois, on l'aperçoit dans les films. Il est allongé par terre, etc. Enfin, il a beaucoup. Il a une perche, mais aussi un pied, quoi, en fait, avec un micro directionnel, comme ça.
Je voudrais poser une question. Dans tes photos, il y a un mot que tu as prononcé, donc je l'attrape au vol, qui est le mot merveilleux. Tu dis que tu documentes des espaces, mais en même temps, tu nous demandes de les habiter poétiquement. Ça, c'est ma conviction. Je sais que tu n'es pas tout à fait d'accord.
Ça dépend.
Ça dépend, mais il me semble qu'il y a quand même, de ta part, une demande ou une ouverture qui est faite à celui ou celle qui regarde la photo de l'habiter poétiquement et pas seulement de la regarder comme un état de fait. Il me semble, hein ?
Oui, alors je dirais pas poétiquement. Parfois, oui. Mais quoique, parce que c'est plutôt... c'est pas tellement poétique. Enfin, ça peut. Je comprends qu'on puisse l'entendre comme ça, mais c'est vrai que c'est pas comme ça que je l'ai pensé. C'est plutôt lui donner une visibilité hors champ, que l'image ne soit plus simplement ce qu'elle est donnée à voir, mais voilà qu'elle puisse voyager vers un ailleurs. Et puis le merveilleux, par contre, je l'ai utilisé que pour phénomène. C'est-à-dire de la merveille à la catastrophe. C'est-à-dire que j'envisage un éclair peut-être presque aussi merveilleux. Même parfois, ça peut être merveilleux, le spectaculaire. Mais parce que moi, je pense avoir une image anti-spectaculaire. Enfin, faire une image qui, justement, interroge le spectaculaire. Notamment dans le phénomène, j'ai aucune image complètement spectaculaire, alors que ça aurait pu. Mais j'ai utilisé mon intérêt pour la question de la merveille, notamment à travers certains éléments comme... les aurores boréales, les trous noirs, enfin voilà, des choses qui nous paraissent lointaines. Et voilà, mais le merveilleux, c'était que pour ça.
Bon,
mais
d'accord.
Le poétique, je ne pense pas, c'est plutôt, on va dire, un démontage ou une... comment est-ce qu'on pourrait démonter le décor pour comprendre ce qu'il fabrique.
Alors, rebondissons sur Wiseman. Est-ce que cette possibilité est offerte par Wiseman, à ton avis, et comment ? C'est-à-dire, pour le spectateur, de penser son image comme un lieu dans lequel son imagination peut se mettre en branle. Ou pas ? Peut-être pas.
Moi non plus, je ne pense pas. Je pense qu'il est plus sujet, dans ses films, le spectateur a plutôt tendance peut-être à s'identifier peut-être à certains cas ou à se reconnaître dans certaines situations ou porter même une opinion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. C'est ce que je disais tout à l'heure, nous invite jamais directement à penser, il ne nous dirige pas dans nos...
C'est plus que de l'imaginaire, c'est les montages de Wiseman, c'est un chemin de pensée, alors qui n'est pas un, mais qui est possible, on va dire, une sorte de pavage comme ça dans lequel on chemine nous-mêmes.
Oui, c'est ça, il y a des chemins de pensée comme ce que j'ai nommé le hors-champ tout à l'heure, sur la politique qu'on peut imaginer autour du film se dérouler. Je ne sais pas quand ce jeune homme parle de la guerre, qu'il revient, qu'il va repartir, ou quand il y a cette lettre qui arrive. Là, il y a un hors-champ qui se met en place. Et là, on peut s'imaginer ce que c'est. Moi, personnellement, je me suis représenté une image de quelqu'un qui va partir à la guerre, de cette personne blessée qu'on a failli amputer. Voilà. Pour moi, c'est là dans ces petits infimes détails que peut-être parfois il nous emmène ailleurs, mais c'est assez rare. Mais on a quand même une notion politique de l'époque, hein, quand même. Mais placée de manière assez discrète, mais qu'on ne peut pas nier.
Sur la question du hors-champ, on a l'impression que c'est un film sur un lieu qui fait tout pour qu'il n'y ait pas de hors-champ dans ce lieu, et qu'il finit par rentrer, presque par effraction, avec
Martin Luther King,
l'assassinat de Martin Luther King, la guerre du Vietnam... Oui. Mais ça fait naître des images.
Oui, parce qu'en l'occurrence, il parle de la réunion sur la mort de Martin Luther King qu'on ne voit pas, finalement. Alors qu'on a, on a presque envie de la voir, en fait. Mais c'est intéressant qu'il décide de ne pas nous la montrer, cette réunion.
Bon, une question là, puis une ici.
Bonjour, merci beaucoup pour vos présentations. J'avais une question sur votre travail en lien avec Wiseman, mais juste avant, peut-être un petit bémol sur les associations que vous avez faites avec Foucault. Je comprends très bien qu'on puisse utiliser des concepts de Foucault pour lire le cinéma de Wiseman. Mais vous avez présenté un peu ça comme une évidence.
Non, je l'ai dit rapidement parce que je pensais que c'était une forme d'évidence.
Ben justement, je pense que justement non. Enfin, disons qu'on ne peut pas penser, ne pas penser à Foucault. Moi, je vous avoue que quand je regarde les films de Wiseman, je pense absolument pas à Foucault, mais alors vraiment pas du tout. Je comprends qu'on puisse tirer quelques concepts de Foucault pour faire une lecture de Wiseman, mais je pense que l'esprit, si je peux le dire comme ça, qui traverse son œuvre, le chemin de pensée qu'il propose, est très éloigné de celui de Foucault. Et chaque fois qu'on lui a mis Foucault dans les pattes, si je puis dire, et qu'on a, on a essayé de lui dire « mais est-ce que vous l'avez lu ?», il a dit qu'il n'avait pas dépassé quelques dizaines de pages, je crois. Et quand on lui mettait des textes de Foucault devant les yeux en disant « mais regardez quand même », ça a été assez dur pour le pauvre Foucault, quoi. Donc c'était juste pour
établir un peu ça. Moi, c'était juste que c'est vrai que c'est comme Lincoln, quoi. On lui parlait souvent de Foucault parce que c'est des lieux où elle montre un espace où... alors, elle n'a pas photographié des prisons, mais effectivement, où un terrain d'entraînement militaire peut ressembler à une école... Voilà, et on sait que dans les textes de Foucault, voilà, l'institution, le lieu...
Mais je pense que la pensée de l'institution de Wiseman est très, très éloignée de celle de Foucault, à mon avis. Mais c'est juste pour...
Moi, oui, bien sûr.
Mais c'est une grande question.
Mais c'était pas... Moi, c'était juste pour... Bah, parce qu'on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Après, est-ce que lui, il le revendique ou pas? Ça, je ne sais pas. Mais on ne peut pas s'empêcher quand même d'y penser. Et puis, j'ai parlé de Foucault aussi pour faire référence avec Tati aussi, avec les films de Jacques Tati. Oui. Après la citation de Lynn Cohen qui disait qu'elle préférait parler de sa relation avec les films de Jacques Tati et avec les textes de Michel Foucault.
Bien sûr. Non, mais parce que vous avez fait référence à Foucault avant, déjà, sur la lecture de High School. C'est pour ça que je vais revenir là-dessus. Non, parce que c'est vrai que... Il y a quelque chose... Même, je sais qu'il est très agacé par le fait qu'on essaye d'englober son cinéma dans des concepts qui auraient été émis par des philosophes, en l'occurrence, ou des sociologues et tout ça. Il y a des anecdotes croustillantes là-dessus. Non, c'était juste pour faire...
Non, je suis d'accord.
Ce qui m'intéresse dans votre travail, par rapport à l'héritage de Wiseman que vous avez revendiqué, c'est le fait que Wiseman dit parfois « la star, c'est le lieu, le personnage, c'est le lieu ». Est-ce que dans vos photographies qui consistent prendre en photo des lieux sans les personnes, est-ce que cette analogie, finalement, entre la personne et le lieu est encore plus forte? Est-ce que vous allez encore plus loin dans cette espèce d'anthropomorphisme du lieu? Vous en avez un peu parlé, mais je voulais savoir si ça va encore plus loin parce qu'il n'y a précisément personne, pas d'être humain sur vos photos, ou pas spécialement?
Ah si, moi je suis assez d'accord avec sa phrase « la star, c'est le lieu ». Moi, j'ai une espèce de fascination comme ça par... réussir à intégrer les lieux que j'ai envie d'intégrer, en fait. Mais c'est toujours à partir de thématiques. Alors, pourquoi il n'y a personne? Parce que je pense qu'on peut parler de ce qui se passe dans un lieu sans forcément y représenter des personnes en train d'y travailler ou en train de se divertir. Ou voilà. Si, par exemple, peut-être pas dans Phénomène, mais dans les studios d'incrustation bleus ou verts, si j'avais photographié ces lieux avec les acteurs en pleine action, le perchiste, etc., on aurait fait plutôt attention au personnage. Et qu'est-ce qu'est en train de faire cette personne avec la perche? Et puis, et pourquoi est-ce que lui, il est habillé de cette manière? Enfin voilà, ça aurait amené d'autres questionnements. Alors que là, j'avais vraiment envie qu'on regarde ce monde physique. Et puis qu'on le regarde différemment, en fait, justement, pas dans ce qu'on peut voir traditionnellement quand on a l'occasion de voir ce genre de lieu. Et puis d'autant plus que ce sont des lieux qui racontent souvent d'autres histoires. C'est-à-dire les regarder... Bon, on comprend, si jamais on était amené à voir un fond vert avec des acteurs devant, on a compris la scène. La montrer que des fonds verts ou que des fonds bleus, pour moi, ça montre aussi leur physicalité et l'intérêt de leur présence. Et puis ça nous interroge aussi sur ce qu'on construit. Voilà, donc c'est vrai que Je ne sais pas si j'ai répondu correctement. Mais je pense que c'est plus important pour moi de les montrer sans, enfin, inhabités, parce que ça parle tout autant de la manière qu'on a de les habiter que, voilà. Et ça, voilà, ça fonctionnerait moins pour moi s'ils étaient habités. Ça parlerait d'autre chose. Mais c'est vrai que si je devais être, par exemple, si je devais faire des films, j'aimerais beaucoup être documentariste, en revanche. Mais voilà, c'est une autre pratique.
Après, c'est que, ce qui est intéressant, c'est
à
aussi
la manière de
le pardon.
Non, je dis à la manière de Wiseman.
Ce qui est intéressant, c'est sur voilà la liberté que Wiseman nous donne en tant que spectateur et effectivement la façon dont qu'il a de fermer sur le rapport à la sociologie, sur la question de l'allégorie, je veux dire, et en même temps. Pourquoi s'interdire de voir dans le mythe quelque chose d'allégorique, voilà, de la mort à l'échelle industrielle, etc. C'est-à-dire que il y a quand même, on peut être d'accord avec lui qu'il ne filme que ce qu'il filme, c'est-à-dire un abattoir. On peut aussi, nous spectateurs, bien sûr, allégoriser, enfin, non, ça se dit pas ça, allégoriser. Enfin, en tout cas, en faire, pourquoi pas, une allégorie. Il y a Foucault, il y a une autre bête noire de Wiseman, c'est les Erwin Goffman et l'école de Chicago. Voilà, où il est encore plus méchant qu'avec Foucault. Mise en scène de la vie quotidienne, de la vie quotidienne. Eh bien, voilà. Alors après, voilà, est-ce que Wiseman ne se défend pas aussi avec, je dis ça vraiment avec toute l'affection que j'ai, elle est grande, avec un peu de mauvaise foi. Ça arrive. Oui.
Non, sur ce sociologue en question auquel il a été beaucoup associé, il raconte qu'un jour il rentre dans la salle de montage au moment où il est en train de monter Ticket Follies avec cette fameuse scène où il utilise un montage qu'il va abandonner après, où il met en parallèle le moment où la personne est nourrie de force et où elle est morte. Et il y a à un moment donné des images du mort et le sociologue dit je sais plus quoi, il ne se rend pas compte qu'il est mort. Et Wiseman le tourne en ridicule en disant le grand sociologue qui est rentré nous donnait des leçons là-dessus, il n'avait même pas vu que le mec était mort. C'est intéressant. Alors que pour un juriste, peut-être.
Je ne sais pas s'il y a des sociologues dans la salle qui en prennent plein la figure aujourd'hui.
J'ai une remarque et je vais un peu faire la transition parce que j'ai et puis aussi une question pour vous. Merci beaucoup pour votre intervention. Premièrement, je sais que pourquoi vous dites que et aussi que vous parlez de la liberté et que le fait que le film nous oriente pas, mais je suis pas d'accord en fait parce que je trouve que ce film est très didactique. Parmi les plus didactiques de ces films, bon, c'est son deuxième film. Quand on compare avec les autres plus tard, donc on voit un peu la différence. Mais je pense que bon, vous dites ça parce qu'il n'y a pas de narration, il n'y a pas de voix off. En fait, le film, quand c'était sorti, c'était très critique. Enfin, c'est-à-dire la réception, les gens ont bien vu que c'était critique vers Northeast High School. Les gens de Northeast High School, les directeurs, qu'ils étaient tous d'accord et très contents. Après, quand ils ont lu les critiques, après, oui. Ils se retractaient et même attaquaient Wiseman. Et les élèves portaient des t-shirts qui indiquaient que Frederick Wiseman avait raison. Ils ont fabriqué des t-shirts pour dire qu'ils étaient solidaires, en fait, avec le portrait qu'il a dressé de leur lycée.
Oui, mais ce qui est amusant, donc, c'est que ce soit les critiques qui réveillaient les esprits. Parce que voilà,
oui, c'était pareil avec Ticket Follies.
Mais je parlais plus des films en général, de ces films en général. Mais oui, peut-être que là il y a des choses un peu plus évidentes. Mais malgré tout, c'est vrai que moi je pense que si on est convaincu en tant que bon Américain qu'il faut que l'ordre soit respecté, qu'il y ait cette verticalité, l'obéissance. À la personne supérieure, pas de discussion possible, etc.
Oui, mais justement, on sent cette...
Dans ce sens, on peut se reconnaître et être d'accord avec, avec certains... Alors, voilà, c'est en ça que je trouvais que c'était... Mais voilà. Effectivement, je sais que le film a été beaucoup critiqué, que du coup, ensuite, les enseignants se sont énervés. Mmh. Mais malgré tout, ils étaient contents au départ.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on sent bien ce qu'il veut en venir, en fait. Donc, ouais. son point de vue, entre guillemets.
Oui, oui, oui.
Alors, ma question pour vous, en fait, c'est en tant que photographe, c'est le seul film que Richard Lightman a fait avec Wiseman. Je présume que vous avez vu d'autres films.
Oui.
Quelle est votre sensibilité par rapport au travail qu'il a fait ? Tous ces gros plans, tous ces... est-ce que vous sentez bien la différence entre un film de Lightman ou les films de Brain ou les films de Davy
Oui, alors je ne suis pas assez peut-être spécialiste pour voir à ce point-là, mais en effet, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus, que les gros plans sont beaucoup plus présents, bah, qu'il y a aussi beaucoup... Bah, que le montage est un peu différent, mais je... Encore une fois, je pense pas.
D'accord. Bon, Lightman, il avait dit qu'il est tombé amoureux de son zoom, en fait.
Ah, d'accord.
Quand il a fait ce film. Mais bon, je voulais avoir votre sensibilité, en fait.
Faudrait vraiment que je re-regarde encore et encore. Parce que moi, je pensais que vraiment, Frederick Wiseman avait quand même un mot sur... En tout cas, je pensais qu'il dirigeait quand même les plans comme un chef d'orchestre, avec des codes, oui. Et donc, j'ai jamais vraiment analysé les films en fonction des différents chefs opérateurs. Je les ai jamais regardés de cette manière, bizarrement. Mais ça me donne une idée.
Okay,
merci.
Voilà.
Alors, c'est vrai que. Alors, est-ce que le film est si didactique que ça, ou est-ce qu'il est moins ambigu, c'est-à-dire moins fonctionnant par point et contrepoint. C'est-à-dire que c'est vrai que peut-être le premier film qui va jouer sur l'ambiguïté du sens, c'est le prochain, c'est celui d'après, c'est Law and Order,
ouais.
qui avait tout pour être une espèce de pamphlet où tous les policiers... voilà, c'est vrai qu'il trouve où son sujet, ça devient peut-être plutôt la complexité que la coercition pure et simple. Ouais, voilà. Mais vous avez tout à fait raison. Et c'est vrai que Titi Cut Follies, il n'y a pas vraiment de contrepoint. Ce lieu est un enfer sur Terre. Voilà.
Sur Titi Cut Follies, il y a eu une émission, je ne sais plus en quelle année. Enfin bon, et justement, elle lui lit un extrait. Non, on entend Foucault. Et juste après, il doit réagir. Et là, il dit... j'allais essayer de l'imiter, mais peut-être que je vais vous épargner ça. Il dit... mais le problème, c'est que je crois que Foucault ne se rend pas compte d'une chose, c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide. Ce truc... ça tombe complètement à côté, quoi. Il n'est pas du tout dans une exégèse de « oui, là, c'est ça ». Ils disent ce sont quand même des aliénés mentaux qui sont complètement psychotiques, etc., et qui ont besoin d'aide. Ça devient... Là, la complexité, je trouve qu'elle apparaît, parce que lui ne veut absolument pas la remettre en cause. Enfin, dans son discours conscient, sur ce que je trouve absolument fascinant, à titre personnel, justement. Et je pense que ça lui vient... Enfin, ça, là, il sera sûrement pas d'accord avec moi, mais peut-être de sa formation de départ en tant que juriste. Juriste et fils de juriste. Puisque le juriste, contrairement au sociologue, par exemple, encore plus si on parle de philosophe ou vraiment de théoricien, bon, n'a pas de présupposé épistémologique très clair, si ce n'est prendre les faits bruts tels qu'ils arrivent sans les choisir. Un avocat, un juge, même un professeur de droit, est quand même dans un chaos des faits avec lesquels il doit se débrouiller. Et tout l'enjeu des juristes, c'est de ne pas tomber dans la morale. S'il existe du droit, alors il faut qu'il soit distinct de la morale. Et ça, c'est une question impossible à penser pour un philosophe. Et Wiseman n'est pas philosophe, donc je pense qu'il est resté quelque chose dessus. Bon, c'est ce sur quoi je travaille.
Oui, oui. Non, mais Wiseman dit toujours que sa seule exigence, c'est d'être fair.
Ouais.
Juste. Et c'est marrant, ça renvoie quand même à rendre justice quand même au lieu et aux gens qu'il filme.
Voilà. Alors,
Là-dessus, je voudrais dire quelque chose, parce qu'il faut faire un petit peu attention à ne pas croire que la vision de Wiseman, elle est sortie pure et dure de la cuisse de Jupiter dès le premier film. Je suis absolument d'accord avec l'idée que ce film est un des plus didactiques. Enfin, j'en suis persuadé. Je pense que Titty Cut Follies est encore plein de fautes de position dite éthique, et il y a une scène, moi, que je trouve insupportable du point de vue du filmeur, c'est celle où il est en train de filmer un type qui est dans sa cellule et il ne rentre pas parce qu'il a peur de se faire becter. Donc il est du côté de la loi et de l'ordre et il n'est pas du côté du type qui se chie dessus. Et cette scène m'embarrasse énormément parce qu'elle résiste à l'éthique du documentariste qui ne prend pas ses distances. Donc l'attitude de Wiseman, elle s'est développée du premier au deuxième et ainsi de suite. Et elle a mûri, et d'ailleurs c'est ce qui fait que Wiseman a construit une œuvre, c'est qu'au fur et à mesure, pas après pas, il a mieux dosé, mieux compris sa position jusqu'à la maîtriser de manière superbe. Mais dans les premiers films, moi je vois encore des petites fautes que peut-être, sur lesquelles peut-être il aurait quelques malaises si on lui en reparlait aujourd'hui. Hein, mais je ne le critique pas du tout parce que je pense que son trajet est somptueux et que comme peu de réalisateurs sur quelques dizaines d'années, il avance pas à pas et il s'affirme et il s'assure. Mais au début, il y a encore des petites fautes de pas justement. Et c'est pas du tout pour le.
Justement, par rapport à ce que vous dites. Dans le film High School, c'est le seul film où il introduit du son extra-diégétique. C'est-à-dire que la chanson Sitting on the Dock of the Bay, il a introduit. Exactement. C'est le seul moment, en fait, qu'il a fait ça.
Oui, où on sort.
Mais non, et ça, c'était diégétique, parce que c'était dans la classe, mais il a prolongé après. Oui, il a prolongé.
Il le prolonge, oui.
Oui, mais bon, là, ça, c'est un peu, il a un peu triché parce qu'il a prolongé. Mais le Sitting on the Dock of the Bay, c'était pas du tout. Après, il s'est défendu de oui, bon, ils écoutaient beaucoup la chanson, donc j'ai. Mais bon, donc ça, c'est quand même à signaler que normalement, il fait uniquement du son diégétique.
Après, moi, je me suis posé la question si c'était pas une chanson d'Otis Redding lié à justement la première scène qui parle de l'existentialisme, où justement ici Otis Redding dans le choix de l'exposition de la chanson, des paroles, il y a un lien avec ce qu'explique ensuite cette professeure d'espagnol. Enfin voilà, bon, je me suis posé la question. Oui. Je dirais peut-être pas ridicule.
Enfin, c'est pas ridicule, c'est léger, disons.
Oui. Il y a aussi que Otis Redding venait de mourir. Là, pour le coup, c'est un vrai.
Qui ça ?
Il venait de se mourir dans son accident d'avion.
Qui ça ?
En 67.
Otis Redding. Ah oui, d'accord, Redding. Ok.
Voilà. Alors, bon, ça ne. Ouais. ça ne. Mais après, c'est vrai qu'il y a, disons que les règles Wisemaniennes ici, elles ont changé. Tout comme le montage alterné entre l'homme nourri de force et embaumé, voilà. Et ça, je pense que je ne sais pas si Wiseman l'a dit, mais on peut penser que voilà, il n'a jamais refait ce type de montage qui, pour le coup, là, est très très, lourd de sens et puis qui enfonce le sens. Quoi.
Alors, il y a aussi un autre point de montage, Marina. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Qui n'a pas très haut sens, mais qui est une facilité cinématographique qu'on retrouve parfois dans ces films, bizarrement. Il y a un petit truc comme ça qui dénote. Le surveillant s'approche d'une porte. La musique ou le son est déjà là et on rentre dans la salle de gym. C'est évidemment pas le trajet normal. C'est un trajet de montage.
Oui, oui. Mmh.
Donc, dans sa logique brute, ça ne devrait pas avoir lieu, ça. Hein, c'est un peu télévisuel.
Moi, j'ai trouvé quelques. Mais alors, ça, j'arrive pas à savoir si c'est. Si c'est beau ou trop facile. Mais je trouvais que ça marchait vachement bien. Mais je trouve que dans le montage, il y a des choses qui sont Alors, le film est court aussi, hein, par rapport à d'autres.
C'est le plus court.
C'est le plus court. Mais du coup, pour le montage, parfois, bah, justement...
75.
Il y a la scène où bah, cette fameuse prof d'espagnol explique l'existentialisme. Après, on passe sur le chef d'orchestre. Enfin, j'ai trouvé qu'il y avait des montages comme ça, d'une beauté extrême et d'une... Mais presque comme s'il était porté lui-même par la fascination de son geste de montage à ce moment-là. Mmh. Est-ce que ce n'est pas un peu trop beau? C'est la question que je me suis posée. Oui. Trop réussi, en fait, j'ai envie de dire. Mais après, c'est tellement beau que ce n'est pas possible de critiquer. Voilà. Voilà.
Après, le couloir, c'est quand même un peu la structure spatiale du film. Il distribue un peu les... C'est comme
ce couloir. On se presque dans une prison à beaucoup de moments. Hein.
Et qui renvoie un peu à coulisses et scènes aussi. Hein. Il y a quelque chose un peu comme ça qui est... Et peut-être, Marina, vous avez parlé de virtualité, c'est ça, pour vos photos de simulacre.
Voilà. Ah oui, le simulacre.
Et je crois que c'est quelque chose de très important chez Wiseman. Et notamment, je trouve, dans ce film, avec l'idée de théâtralité qui n'arrête pas de enfin justement sur cette idée de simulacre dans vous avez parlé de vos photos et chez Wiseman est-ce que peut-être développer un petit peu cette idée de simulacre chez Wiseman.
C'est pour ça que tout à l'heure je parlais du théâtre du monde en fait aussi pas développer davantage je sais pas mais
c'est pas obligatoire hein.
En tout cas moi dans mes photos c'est vrai que moi je parle aussi beaucoup du théâtre du monde où se rejouerait l'histoire collective, notamment pour Phénomène, comme plein de petits théâtres. Donc moi, j'envisage ça plutôt. La question du simulacre, est-ce que je la vois vraiment dans ces films? En tout cas, je vois la question du théâtre comme dans la globalité de chacun de ces films, en fait. Je trouve ça fascinant, cette curiosité et voilà, cet intérêt. On y a presque un film par an. Mais je serais curieuse d'en lire plus sur cette notion de simulacre dans les films de Frederick Wiseman.
Bah, disons, ce qui est intéressant, c'est là, il y a une scène aussi que j'adore avec la dame qui commente les corps et puis elle prend la place des autres et elle se montre. Parce qu'au début, elle est d'une extrême cruauté. Elle est cruelle avec elle-même aussi. Donc, à partir du moment où elle se... disons que c'est aussi...
Est-ce que ça, c'est vraiment du simulacre? Oui, en effet, ça peut être considéré comme...
Moi, je pense qu'à partir du moment où il observe, où il regarde, où il rend compte de la vie des gens... sous le regard des autres et jouant leur rôle, il parle du théâtre, il parle du simulacre. C'est sa notion de la vie sociale,
le théâtre,
tout simplement.
Oui, ça, je le vois complètement.
On est toujours sous le regard des autres.
Voilà, sous le regard des autres. Et il faut jouer tel ou tel rôle et il faut se tenir à tel ou tel rôle. Ne pas dévier, effectivement. Merci. Oui. J'entends d'ailleurs le simulacre dans ce sens-là, d'accord. Oui.
Alors moi, la question que je trouve qu'on n'a pas abordée du coup, mais qui m'a peut-être un peu choquée, mais c'est peut-être par rapport à ma sensibilité aussi, c'est la question du male gaze, parce que y a quand même tout ce plan assez long sur les jambes de lycéennes, et notamment sur les fesses des lycéennes, et même je trouve qu'il y a quand même un sous-ton sexuel, même quand il y a, quand les visages des femmes sont filmés. Donc je sais pas, j'arrive pas bien à comprendre parce que je suis pas très très familière avec le cinéma de Wiseman et je découvre un peu avec le séminaire. Et j'ai du mal à comprendre du coup si c'est un parti pris pour justement un peu, pas dénoncer, mais se donner une vraie vision de la société américaine patriarcale telle qu'elle est reproduite dans les lycées, ou si c'est justement un effet de Wiseman qui lui-même est un homme dans... ce monde patriarcal et que donc sa vision en tant que réalisateur reflète ça. Moi je l'ai pas vécu comme justement j'ai eu l'impression que ça s'inscrivait dans la narration du film même si on n'a pas vraiment et pour moi ça reflétait vraiment tous les discours qui ont été tenus après par les enseignants ou par les responsables et donc pour moi c'était un parti pris mais j'ai du mal à comprendre si ça l'était vraiment ou si c'était juste un peu un plaisir malsain de filmer des lycéennes en train de faire du sport. Donc voilà, c'était une question.
Non, ou un plaisir, c'est qu'en tout cas, je me suis posé la même question.
D'abord, je voulais parler de ça parce que vous avez évoqué tout à l'heure la dame qui disait qu'il ne fallait pas se retourner. Et elle a dit qu'il ne fallait pas se retourner, montrer ses fesses. Et puis, il ne faut pas écarter les jambes comme ça.
Ouais.
Et en fait, c'est exactement la position de la jeune fille.
Oui,
et
vrai.
Pour moi, en fait, ça s'inscrit dans ce qu'il y a dans ce film, c'est-à-dire que fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a le contraire et il y a ce qui est montré. Donc on voit que le discours des lycéens sont beaucoup plus matures que les adultes quand on écoute ce qu'ils racontent. Et chaque fois, c'est oui, vous ne devez pas faire ça. Donc vous devez être, l'enseignant dit oui, vous devez être, pensez vous-même. Donc elle montre la chanson, elle fait écouter la chanson de Simon & Garfunkel. Et puis après, la réalité, c'est que ne pensez pas, vous devez juste obéir. Donc, c'est ça, pour moi, le sens de ce film, c'est-à-dire tout est l'inverse. Et après, le côté sexuel, moi aussi, quand j'ai regardé ce film, j'étais frappé par ce gros plan. D'un côté, je pense que c'est peut-être Leiterman. De l'autre, je pense aussi que ça s'inscrit dans la thématique du film, c'est-à-dire qu'on n'est que des corps. On a vu la même chose avec les jeunes garçons qui jouaient avec le ballon où on ne voyait pas les têtes. Et la fin du film, parce que c'est très important pour Wiseman, c'est le moment où il coupe, en fait, ça donne une force, en fait, au Et la fin de ce film, c'est cette lettre où il dit « I'm just a body ». Donc, c'est juste... les gens, en fait, ils sont institutionnalisés et ils ne sont que des corps, en fait. Et donc, ça rejoint le côté de basic training, en fait. C'est-à-dire que Wiseman... Une thématique aussi dans tous les films de Wiseman, c'est le processus. Donc, c'est process. En fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, en fait, on voit comment les jeunes sont avalés. Et ils sont après, ils sortent comme ça, comme que des corps, en fait, institutionnalisés. Donc, voilà comment je l'interprète.
Alors, ouais. C'est vraiment une question, c'est intéressant parce que, disons que, avec tous ces films rapprochés de Wiseman que je peux voir, que j'ai vu et que je peux voir, je réfléchis beaucoup à comment. Enfin, j'ai vraiment l'impression que tout ce qu'on appelle aujourd'hui, qui a commencé bien plus tôt aux États-Unis et ailleurs, qu'on appellerait la déconstruction. Oui. Mais disons que j'ai vraiment l'impression que le cinéma de Wiseman est quand même très travaillé par ça. Sur de travailler, de déconstruire les assujettissements, les assignations et de les retourner. Vous avez vu cette séquence, je trouve assez géniale, de le seul afro-américain qu'on voit, il est le plus raffiné, il a certainement des ascendances bourgeoises, enfin en tout cas socialement on le rattache. Donc Wiseman n'arrête pas de travailler cette. De tourner et de retourner les choses contre lui-même, contre elle-même, et à travers les assignations, les assujettissements. Et après, pour la question du corps, c'est un cinéma qui est complètement travaillé sur la réification des corps. Bon, Titi Cut Follies, bien sûr, mais aussi, je trouve. Et après. Je pense que c'est pure subjectivité de regardeur, de film. C'est que pour moi, la réponse peut-être à ce plan, effectivement, hein, qui est trop évident, je pense, pour ne pas être un peu une provocation, c'est la gynécologie. C'est du montage à distance, oui, comme dirait Vertov, mais pour moi, la réponse à ce plan, effectivement, insistant sur les hanches et les fesses des femmes, c'est le truc de gynécologie qui est à hurler d'horreur. Et voilà. Après, effectivement, je pense que, en tout cas, Wiseman est en tout cas très travaillé par la déconstruction. Je pense que ce plan vient ensuite. Il est travaillé par. Il y a d'autres séquences qui y répondent. Voilà.
Alors Marina, tu nous montres, enfin tu montres des espaces qui sont vidés de présence humaine, parce que tu dis que s'il y avait une présence humaine, c'est celle-là qu'on verrait, on ne verrait pas la force de composition de l'espace sur les corps. Bon, c'est vrai. Parce que, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que dans ce film de Wiseman, on est très serré sur les visages et les corps, on donne peu de place à l'espace. Qu'on comprend, mais qu'on ne regarde pas. Et donc, dis-nous-en un peu plus sur cette, ce refus de voir les corps ou de les prendre en compte dans un espace qui est ton...
Voilà, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. C'est vraiment une volonté de parler du pouvoir du lieu, en fait. Et de... Voilà, ça, de sa mode. Ouais, parce que chaque lieu a quand même le pouvoir de raconter ce qui s'y passe, ce qu'on y fait, sans qu'on ait besoin de les photographier peuplés. Donc je pense qu'ils parlent d'eux-mêmes et ils racontent d'eux-mêmes nos vies, quoi, notre quotidien, notre époque, qui changera encore dans quelques décennies. Mais c'est vrai que c'est vraiment une volonté, ou sinon je ferais des films, je pense. Mais là, en tant que photographe, ma manière à moi de documenter, même si ensuite je m'échappe quelque sorte du document pour emmener encore la photographie ailleurs, mais ça part toujours de l'idée de documenter le réel et de photographier ces espaces vidés de leur présence humaine pour mieux les faire parler d'eux-mêmes. Sinon, on ne ferait pas attention, en fait, au moindre petit détail, à un petit néon, à une prise, à un trait. Notre regard serait happé immédiatement par l'action.
Il n'y a pas la sonnerie, mais on n'est pas au lycée North-East quand même. En tout cas, merci beaucoup Marina d'avoir partagé vos réflexions et votre travail avec nous. La semaine prochaine, vous verrez que la déconstruction de Wiseman avec l'animalité, la sauvagerie, voilà, avec Zoho. Alors, âme sensible, ne pas s'abstenir, mais soyez prévenus. C'est un film avec certaines séquences assez difficiles. Enfin, on a montré le film plusieurs fois ici. Et voilà, tout le monde ne le supporte pas. Voilà, alors, soyez prévenus, mais venez, c'est un film absolument passionnant. Et à bientôt, et merci encore Marina.
Mais merci beaucoup à vous tous. Merci pour votre écoute aussi. Merci.